Margaret Missimili, une journée qui a bien commencé ce matin à partir de 9h30, 10h au Palais des Congrès sur cette histoire et mémoire des harkis.
Alors oui, une vraie réussite de par la qualité déjà des interventions d'Abderrahmane Moumen qui a été particulièrement intéressant et qui s'est mis à la hauteur des élèves, donc avec des explications à la fois techniques mais tout à fait accessible pour la bonne compréhension. Il a l'habitude d'intervenir auprès de la jeune génération. Donc ça a été vraiment une intervention de qualité. Et puis une table ronde qui a suivi avec effectivement de beaux témoignages sur la transmission de la mémoire et comment on transmet les mémoires aujourd'hui. Donc c'était déjà une matinée très très réussie. Je suis très optimiste pour cet après-midi puisque nous allons compléter avec le film « Filles de harkis » et avec les témoins du film qui seront là pour échanger avec la salle après. Nous avons une centaine d'élèves en plus qui viennent d'arriver par rapport à ce matin. Donc nous serons à plus de 240 élèves, donc ce qui sera très très bien. Et je pense que ça va se terminer encore aussi avec cette très belle pièce de théâtre à 19h. Donc j'espère que les Dignois et les gens des alentours répondront à l'invitation et seront nombreux présents ce soir.
Merci.
Merci à vous.
Je viens de Manosque avec ma classe. On est venu parce qu'on est en histoire géopolitique et on a un parcours qui s'appelle Histoire et mémoire et on a une partie sur la guerre d'Algérie.
Donc vous avez déjà bien appris ça en classe. Vous êtes en terminale ?
Oui.
Donc vous avez assisté à la table ronde, mais aussi à l'intervention de Abderrahmane Moumen, historien. Qu'est-ce que vous retirez déjà de l'expérience de ce matin ?
Ben, c'était bien parce que tout au long de l'année, on voit des thèses d'historiens et du coup, tout ce qu'il a dit, on l'avait vu en classe et ça a été bien parce qu'il a pu approfondir. Et les témoignages aussi, c'était bien parce qu'on a pu aller plus sur la partie mémoire quand on voit plus histoire vu qu'on a moins de témoignages.
Vous aviez entendu parler de mémo à ongles ?
Non, on n'en avait pas parlé parce qu'on n'a pas trop... exagéré sur la guerre d'Algérie parce qu'on va continuer après. Ils voulaient d'abord qu'on voit les témoignages, etc. Il y a eu du mal qui a été fait des deux côtés. Nous, quand on les a colonisés, ça n'a pas été quelque chose de bien. Il y a beaucoup qui ont dû émigrer, qui sont allés dans des bidonvilles, notamment dans ma famille. Mais après, je n'ai pas de haine spécialement. Enfin, genre, je ne suis pas énervée. Parce qu'on ne m'en a jamais parlé, ma famille m'en a jamais vraiment parlé. Et c'est horrible ce qu'on a fait aux harkis, d'en avoir laissé certains là-bas et du coup ce que les Algériens leur ont fait et nous de les avoir mis dans des camps comme ça aussi. Enfin, des deux côtés, ça a été horrible.
Est-ce que vous comptez être historienne plus tard ou professeur ?
Non, ça, j'aimerais bien, mais je vais aller dans le droit, donc voilà.
C'est important aussi.
Oui.
Merci, vous m'avez donné votre prénom ?
Non, Lilou.
Merci Lilou.
Merci.
Je voudrais vous remercier, chers élèves, d'être présents et surtout d'avoir applaudi avec tant d'ardeur les professeurs, vos profs, j'en connais certains avec lesquels j'ai travaillé, et qui ont mis tant d'ardeur pour faire en sorte que les mémoires de la guerre d'Algérie dans leur ensemble et la question harkis soient travaillées au sein du département. Et croyez-moi, ça n'a pas été une mince affaire. Donc, merci à vous tous.
Alors, est-ce qu'ainsi motivés, il y a des élèves, des collégiens lycéens qui vont se lancer pour pouvoir poser des questions à nos trois témoins ?
Donc, je voulais poser la question suivante, c'est à quel point le tournage a été émouvant pour vous ?
On en a parlé rapidement ce matin. Il est très difficile de se livrer lorsque l'on témoigne. Et juste un mot, mais chacune parlera de sa propre expérience. Témoigner, c'est livrer une intimité. Et parler de soi est extrêmement difficile. Le tournage a duré pour moi 5 jours. Je me suis posé une question, je me suis demandé humblement si j'étais la bonne personne pour témoigner. Et vous avez vu dans le documentaire, j'ai eu du mal à employer le pronom personnel « je ». Et je parle toujours au nom du groupe parce que je suis aussi très engagée sur le plan associatif. Donc, je disais que ce matin, que témoigner, montrer les membres de sa famille, montrer son intimité, ce n'est pas un exercice facile. Et souvent, on se demande si ce que l'on dit est juste, C'est, en tout cas, c'est toujours vrai de notre point de vue, si ce que l'on dit est juste. La manière dont notre propos sera reçu, et souvent, eh ben, on ne livre pas le plus douloureux. Ça a été mon cas. Voilà. C'est un tournage qui, moi, m'a habité profondément pendant 5 jours et même après. La nuit, je n'endormais pas. Je me demandais s'il était juste de dire ça ou pas juste de dire ça. Vous voyez ? Donc, il est très difficile d'être à la place où nous sommes aujourd'hui.
Pour moi, le tournage a duré 3 jours. C'est sûr qu'au début, je pensais que ça allait être facile. Mais comme elle dit Amina, c'est à la fin, lorsqu'on revoit le film, eh ben, on se dit, j'aurais dû dire ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Parce qu'on nous interroge quand même sur un vécu. Il faut que nous, on fasse appel à notre mémoire et qu'on se rappelle de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Et pour moi, ça n'a pas été trop facile. Voilà, je ne sais pas. Jeanne, je sais pas.
Pour moi, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, j'ai été contactée par la production un matin me disant on aimerait faire un documentaire sur les femmes, principalement. On voudrait donner la parole aux femmes dans la mémoire archive, qui a été rarement fait. Et j'ai posé des conditions en lui disant, alors en disant donc à la journaliste, je veux bien, mais une condition que vous preniez ce que j'ai envie de dire moi, de ne pas l'interpréter, de ne pas le diriger, de ne pas imprégner ma famille d'une autre mémoire, d'une autre image, d'un autre message que le mien, parce qu'on restait quand même dans la presse visuelle. Et ça a été un risque quand même de se dévoiler, non seulement parce qu'on a encore de la famille et des descendants du côté de mon père en Algérie, donc il ne fallait pas non plus le nom de mon père qui circule en tant que fille de harki, prendre des risques pour leur vie aujourd'hui encore en 2025. Et nous sommes une famille de 11 enfants, donc il y a beaucoup de garçons, il y a 8 garçons qui portent mon nom aussi. Et je ne voulais pas non plus livrer tout ce qu'on a pu vivre dans les camps, parce que ça voudrait dire aussi qu'il fallait embarquer tout le monde dans ce bateau. Donc je vous avoue que tout a été bien mesuré dans le reportage, bien pensé. Et c'est sous condition-là que j'ai dit « Ok, je vous suis, mais attention à tout ce que vous allez pouvoir passer comme message. Passez le message qui sort du fond de mon cœur, mais ne dirigez pas le reportage, le documentaire sur une autre route qui serait sinueuse pour ma famille, moi-même et pour mes enfants, puisque ça, c'est un documentaire qui laisse aujourd'hui, et qui circule beaucoup, et qui laisse des traces, et qui en laissera sûrement peut-être dans 10, 15, 20 ans. » Et je voulais vraiment lui donner l'image que je voulais moi transmettre et donner, le message que je voulais donner moi-même, pour pas embarquer ma famille, mon histoire, ma mémoire sur un autre chemin que j'aurais pas voulu qu'il soit traîné vers l'autre rive, quoi qu'il arrive. Voilà.
Il y a déjà une autre question.
Bonjour. Alors en fait, j'avais une question, c'était est-ce que l'école, quand vous étiez petite, c'était le seul endroit où vous aviez des interactions avec l'extérieur, du coup ?
Ah, situation très différente d'un lieu de vie à l'autre, je vais vous laisser répondre toutes les trois. C'est un sujet en tout cas qui a eu une importance, vous l'avez vu dans le documentaire, pour chacune d'entre elles.
L'école, ça a été compliqué parce que notre première langue maternelle dans les camps, c'était l'arabe. On parlait qu'arabe. Moi, j'ai parlé l'arabe jusqu'à la grande section, on parlait pas du tout français. C'est à partir du CP qu'on a commencé à parler français. Ça a été très compliqué d'échanger avec les élèves parce que nos parents savaient ni lire ni écrire, donc ils parlaient que la langue algérienne. Quand on est à la maison, on parlait qu'algérois et on vivait à l'algérienne. Hein. Et quand on allait à l'école, on vivait à la française et on parlait français avec les petits enfants. Et en fait, on comprenait rien. Mais les enfants sont tellement d'une beauté intérieure qu'ils savent communiquer sans ouvrir la bouche en fait. Et donc on avait des camarades de classe avec lesquels on jouait sans aucune difficulté. C'est après qu'en primaire que ça a commencé à avoir des clans de racisme. On a beaucoup vécu le racisme dans les écoles primaires principalement. Au lycée moins. Mais en primaire, on a... En fait, je pense que... Moi, personnellement, je pense qu'en primaire, j'ai vécu le racisme parce qu'on était habillés comme des gens très très pauvres. Et donc, il y avait une différence sociale, de classe sociale. On n'était pas bien habillés. On était différents de par notre façon d'être, de se comporter, de s'exprimer. On n'avait pas les codes. Et c'est vrai qu'à force, dans cette petite ville de Arte, où il y a 10 000 habitants, on formait des clans.
Puis après, petit à petit, les Provençaux que nous sommes devenus, on s'est adaptés, on s'est intégrés, on s'est assimilés et on est devenus des vrais petits Provençaux aujourd'hui.
Je répète la question, tu me diras si c'est bien traduit. C'était alors, bon, le rôle de l'école déjà, et surtout si c'était le lieu où il y avait de l'interaction avec le reste de la société et d'autres Français. Puisque dans certains hameaux, l'école se faisait à l'intérieur, comme à Jouques.
Alors, moi j'étais dans une toute petite école à Montmélian, et dans cette école, il y avait très peu d'élèves. Donc le fait que nous, on arrive, donc on a rempli un peu la classe. Il y avait seulement que deux classes, section enfantine, CP, CE1, et de l'autre côté, il y avait CE2, CM1, CM2. Quand on est arrivé, donc moi je suis arrivée, j'avais 5 ans et demi, on m'a mis tout de suite en section enfantine, donc de mars à juin. On a été très vite intégrés, et c'est vrai que l'école, ça a été, comme je dis dans le film, un vrai, réel échappatoire. Après, on a passé les étapes, en ne sachant ni lire ni écrire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont redoublé, c'est pour vous dire que tout le monde faisait des efforts. La personne que vous avez vue, la Madame Rabel, qui était institutrice, le soir, elle nous gardait après l'école pour qu'elle nous fasse travailler notre français. Après, le souvenir que j'ai du collège, excellent, et le lycée aussi. D'ailleurs, j'étais ici à Digne, au lycée Alexandra David Nel. Et pendant 3 ans, seconde, première, terminale, on faisait le bal du lycée ici. Alors c'est pour vous dire que j'ai des bons souvenirs. Voilà.
Alors au niveau des Alpes-de-Haute-Provence, la situation a été très disparate de part et d'autre. Il y a eu à Sisteron l'école dans le camp. Et l'école dans le camp pouvait rassembler des élèves de 3 ans jusqu'à des élèves de 14 ans. Je vous laisse imaginer, c'était une classe unique extrêmement étendue. Donc il y a eu, au sein de Sisteron, un décalage avec la population locale. Donc on a eu un gros taux d'échec scolaire à Sisteron. Mais c'est valable, ce qui s'est passé à Sisteron, malheureusement, s'est reproduit ailleurs. Et pour la ville de Manosque, il y avait deux cités, la cité Saint-Martin et la cité Quatre Saisons. Moi, je suis la dernière d'une grande famille, avant-dernière en définitive, en fait, parce que j'ai un petit frère qui est décédé, mais j'arrive au terme d'une grande famille. Et là, nous avons 3 histoires différentes, et dans le documentaire, 4 histoires différentes, et je dirais 2 générations différentes. Et j'ai grandi, moi, dans le centre-ville de Manosque, dans une classe, dans une école, l'école des Tilleuls, dans laquelle il y a eu de fortes interactions. Mais nous rejouions dans la cour la guerre d'Algérie. Et nous ne savions pas où nous situer. Et tous les enfants qui sont nés dans le camp portent des noms français. C'est le cas de tous les membres de ma famille. Ceux qui sont nés à la cité Saint-Martin, la cité Quatre Saisons, et celles qui sont nées au hameau de forestage de Sisteron. Et l'histoire de mes frères et sœurs est extrêmement différente de l'une à l'autre. Et les élèves, dans les Alpes-de-Haute-Provence, comme ailleurs, certains étaient placés au fond des salles de classe. On leur donnait de la pâte à modeler, ce sont les témoignages. Et jamais, même s'ils étaient dans une classe, il n'y avait pas d'interaction, parce que pour le corps professoral, ils étaient tout autres. Je n'en fais pas une généralité, mais c'est ce qui s'est passé au sein des écoles. Et au sein des écoles, il y a eu une forte relégation de ces élèves. Et j'en veux pour preuve qu'en 1982, dans les Alpes-de-Haute-Provence, parce que j'avais fait un diagnostic social lorsque j'avais pris le RACAN, il y avait à peine 9 élèves d'une classe d'âge supérieure à la mienne qui avaient intégré le lycée Esclangon à Manosque. C'est dire, en fait, on envoyait nos frères et sœurs aînés, qui étaient gérés par des monitrices d'action sociale à l'intérieur des camps, vers des filières maçonnerie, couture et ainsi de suite, au lycée à Manosque. Et celles et ceux qui sont ici des Alpes de Haute-Provence corroboreront mon propos. Donc moi j'ai une chance inouïe, c'est que j'arrive au terme d'une grande famille. Et je disais juste que passant après mes frères et sœurs aînés, malgré mon niveau scolaire, qui était somme toute extrêmement correct quand j'étais au collège, certains avaient décidé pour moi de m'orienter vers les classes préparatoires à l'apprentissage. Donc je suis une miraculée. Et il y en a plein comme moi qui sont des miraculés. Et là, on a eu des mamans qui, sur le tard, avaient appris à baragouiner quelques mots en français et qui sont allées défendre notre situation. Vous voyez, c'est ça. Nos parents ont mené aussi un combat contre ceux qui étaient censés nous faire réussir. Donc je suis, moi, toujours très attentive aux élèves les plus en difficulté et aux élèves sur lesquels on ferait reposer une histoire qui n'est pas la leur.
Quel est votre ressenti aujourd'hui envers la France ?
C'est le plus beau pays du monde. C'est le seul, bon, la seule France, le plus beau pays du monde. Notre patrie mère, c'est la France. Moi, je suis née dans le Vaucluse, je suis née dans le Luberon. J'ai tout le temps, quand on est dans mes discours mémoriels, je suis président d'une association. Parlez-moi de Baudelaire, d'Aragon, de l'amour qu'il avait pour Léa, parlez-moi de Zola, même si c'était pas top pendant cette période et c'était livre noir. Parlez-moi de la littérature, de la cuisine, du patrimoine, des belles portes provençales. Moi, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'adore la France. C'est mon pays. Puis, je suis allée deux fois en Algérie quand j'étais jeune. Et quand je suis allée là-bas, je me suis sentie comme une vraie étrangère. Il reste encore la famille à mon père, mais j'ai pas eu l'odeur des champs de blé, des champs de lavande de Provence. Je me suis sentie vraiment comme une étrangère et on m'a fait ressentir que j'étais une étrangère parce que déjà pour mon prénom, quand je suis passée la douane, c'était très compliqué pour moi. Ils m'ont gardée pendant 2 heures. Pourquoi vous vous appelez Jeanne? Pourquoi vous avez un prénom français? Je suis née pendant, après juste la guerre d'Algérie, quelques années après, ils ont fait le lien. Ils ont compris que j'étais une fille de Harki, ça a été très très compliqué pour moi. Ils m'ont surveillée pendant 10 jours en Algérie. Ça a été d'une violence inouïe et ils m'ont dit n'oubliez pas que vous êtes qu'une immigrée dans ce pays. Et je l'ai retenue à l'âge de 20 ans, ça. J'y suis retournée 20 ans après, ça n'a pas été mieux. Et je n'y retournerai pas. Donc c'est là qu'on se dit c'est vraiment le pays de nos parents. On a une histoire avec ce pays, on a nos racines, nos traditions, notre culture. On a gardé, hein. On a gardé quand même l'essentiel de nos origines. On ne réunira jamais nos origines, d'où on vient. C'est écrit hein, dans notre ADN. Mais après, on est tous nés ici, on a grandi ici, on est enterrés ici. Et on a vécu avec les Français que nous sommes. Et on se bat pour que, justement, ceux qui ont été, quelque part, injustement rejetés, discriminés, vivant le racisme, de par là où nous sommes passés, ben nous on essaie de réparer dans notre vie professionnelle par là où on est passé. Mais c'est vrai que moi je me sens état française, quoi. Je veux dire, je dis souvent là, l'Algérie c'est le pays de mes parents, mais j'adore la France.
Bon, moi vis-à-vis de la France, et c'est personnel, je dirais que mon père a eu raison de cette battue pour la France. Parce que je rejoins un peu ce qu'a dit Jeanne. Je suis très bien en France et je ne vois pas du tout revivre là-bas. Alors, ma famille vient d'un milieu très très pauvre. Et lorsque je suis allée 3-4 fois, j'ai eu la chance de connaître mes grands-parents maternels. Quand je vois, et mes parents, enfin la famille de mes parents, habitait dans les montagnes, c'était vraiment... comment dire, le duel, perdu complètement, le plein air, comme il dit mon mari. Et quand je vois ce que sont devenues mes cousines, je me dis, mais alléluia, on est en France. Parce que je sais que si on était resté là-bas, on m'aurait marié, j'aurais eu je ne sais pas combien d'enfants, alors que maintenant en France, on vit très très bien. Moi, comme dirait Jeanne, on aime la culture française, on aime tout ça. Et voilà, moi je suis bien ici, voilà, et je ne me vois pas retourner là-bas.
Je rajouterais que l'éducation nationale a été le premier moteur de notre vie, hein, Aïcha.
Oui,
on est, dans ce film, on parle beaucoup de l'éducation nationale. L'éducation nationale, ça a été le premier train, le premier billet pour la vie. Vraiment, hein. C'est d'abord nos camarades de classe qui nous ont aimés, qui nous ont accompagnés en tant qu'ados. On a connu la boue, on a connu les soirées, on a connu la bringue, on a vécu avec eux, on a fait la fiesta, on a chanté quand on trinquait, on chantait la Marseillaise, on a fait la fiesta. Donc. Mais c'est vrai que donc on voit pas la différence, on se sent pas vraiment.
Et la Marseillaise, on l'a chantée même quand il y avait le 11 mai.
Oui,
au monument aux morts.
Au monument aux morts.
Et en septembre.
Voilà. Et donc c'est vrai
on avait des cocardes et tout. Je veux dire, on était vraiment.
On dit toujours la patrie mère, c'est la France. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Et on combat nous, les Harkis, les enfants des Harkis. On est vraiment une barrière contre justement les autres qui veulent saigner le pays. Nous, on est un barrage de par nos origines, nos cultures. Demain, on ne dira pas choisis ton camp, camarade. On sait où on est et on sait où on ira. Ça, c'est une évidence.
Et c'est vrai.
Alors, pour revenir à la question initiale, pour moi, la question ne se pose pas. Je m'appelle Yalina Chalabi. Et lorsque l'on me demande d'où je viens, je dis juste que je suis née à l'hôpital Sainte-Barbe à Manosque et que mes enfants y sont nés aussi. Donc la question ne se pose pas. Mais si nous devions, donc moi je suis pleinement française, cela dit, je me souviens d'une rencontre avec un parent d'élève qui me serre la main, qui monte la main sur mon poignet, qui me dit « Mais madame, vous avez le poignet bien fait, je retiens sa main parce qu'il montait de plus en plus haut. » Il me dit « Mais vous venez d'où ?» Je dis, ben, je viens de l'hôpital Sainte-Barbe. Et voyez, en fait, il convoquait une histoire qui n'était pas la mienne, parce que, au regard de mon faciès. Vous voyez, c'est contre tout ça que l'on doit lutter au quotidien, et la question me paraissait complètement étrangère. C'est comme si l'on disait à mes enfants, qui portent le nom de mon conjoint et le mien, « Oh là là, y a-t-il un problème avec votre nom ?» Parce que mon mari, c'est Géa, et moi, c'est Chalabi. Vous voyez ? Donc, quel sentiment il y a vis-à-vis de la France ? Rien, si ce n'est que je suis entièrement française. Donc, je n'admets même pas qu'on me pose la question. Vous voyez, je la prends par cet autre biais. En revanche, si nous devions la poser à nos anciens, qui sont présents dans la salle, eux vous diraient qu'ils sont pleinement français et qu'ils auraient sans doute aimé être reconnus beaucoup plus tôt en tant que tels. Mais je vais creuser davantage. Si on l'a posé là, nos mamans, je suis sûre que c'est ce qu'elle répondrait. Madame Bégard me fait signe de la tête. Oui, elle est d'accord avec moi. Si nous la posions à nos papas, ils répondraient qu'ils se sont battus aux côtés de la France, mais qu'on a mis longtemps avant de les reconnaître. Et ça a été une fêlure chez eux qui se retrouve quand même dans les familles. Et le vecteur d'intégration, vous voyez, le terme intégrer signifie, il vient de intégrare, qui signifie renouveler et faire entier, étymologiquement. Mais je n'admets pas, moi, que l'on pose ce terme vis-à-vis de moi, parce qu'il n'y a pas de différence culturelle entre vous et moi. Moi, quand j'étais petite, on nous envoyait au catéchisme, parce qu'il fallait nous franciser davantage. Lorsque je lisse mes cheveux, comme vous avez pu le voir dans le documentaire, il y a quelques années encore, on me disait « Oh là là, mais tu veux paraître française ?» Sauf que je le suis depuis des générations. Vous voyez, ce n'est pas tant la manière dont on se voit, c'est la manière dont on est perçu qui est encore problématique. Et jusque l'école, bien sûr, ça a été un vecteur, non pas d'intégration, mais d'insertion. Et j'ai comme figure tutélaire tous les profs, je pourrais citer tous leurs noms, tous les directeurs également, tous les chefs d'établissement, parce que j'ai fait ma scolarité dans le public, tous les profs qui m'ont considérablement aidée, qui m'ont considérablement épaulée. Et vous voyez, Jeanne parle l'arabe. Moi, je ne le parle pas. Je ne le parle pas parce qu'il y a eu une barrière dans mon esprit. Parce qu'à un moment donné, on nous a poussés à choisir un camp. Mais lorsque l'on creuse la question de la guerre d'Algérie, il n'y avait pas de camp. D'accord ? Donc, il n'y avait pas les bons et les méchants. Donc, la langue a été un facteur. Je n'ai pas voulu la parler et je l'ai éloignée. En revanche, j'ai lu beaucoup et j'ai fait mes études en lettres modernes. Donc, j'ai eu un amour de la langue française très tôt. Et les profs qui m'ont connue le diront, à l'écrit comme à l'oral. Donc, j'ai investi ce champ-là et j'ai inconsciemment gommer cette partie dans mon esprit, cette partie qui consiste à pratiquer une autre langue. Du coup, au sein des familles, il y avait nos parents qui nous parlaient en arabe, dialectal, et nous qui leur répondions en français. C'était quelque chose à vivre, ça.